Rappelons-nous encore, nous ne sommes pas devant un texte littéraire, nous sommes devant une vraie expérience d'un croyant comme nous, que Dieu le conduit à coucher sur papier. Parce que nous vivons les mêmes sortes de choses et nous allons apprendre comment chanter à travers nos péchés, comment traverser des troubles profonds que nous causent nos péchés aussi, et comment ne pas nous embourber complètement, comme c'est tellement souvent le cas. Alors, nous commençons. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. C'est la voix d'un croyant. Est-ce que vous avez jamais eu le même sentiment? Du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. Je rigole un peu à l'intérieur de moi-même parce que le jour de mon mariage, ma première nuit avec ma femme, deuxième, elle est tombée gravement malade. Elle a été empoisonnée par une nourriture qu'on a mangée dans un restaurant. Et elle et moi, mais elle était le premier à montrer les symptômes, et on a passé toute la nuit à vomir l'un après l'autre, toute la nuit. Dans un endroit, un site de vacances quelque part en Afrique du Sud. Mais ce qui était un peu, ce qui nous a fait rigoler entre nos voyages aux toilettes, c'était que Nikki était en train d'apprendre le français. Et pour l'apprendre, elle avait mémorisé un psaume. Et elle le disait ce soir-là, et ça commençait, « Du fond de l'abîme, Seigneur, je t'invoque. » Bon, il y a des abîmes qui font un peu rigoler, parce que c'est pas trop grave. Mais il y a des abîmes qui sont véritables, et qui sont des eaux profondes et des eaux troublées. Et cela arrive aux croyants. Ça me rassure, je ne sais pas pour vous, quand j'entends un croyant expérimenté dire « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Seigneur. » Avez-vous jamais perdu pied dans votre vie avec le Seigneur? Je sais que je suis passé par des moments, plus d'une fois, où je me disais « Là, je m'éloigne de mon Dieu. » Je suis dans des troubles extrêmement périlleux pour moi, spirituellement. Et il y en a ceux qui disent que une fois qu'on est chrétien, tout est victoire et tout est paix et joie. Mais le psaume ici nous désabuse, n'est-ce pas, de cette idée. Parfois, vous aussi, vous serez amené à dire du fond de l'abîme, je t'invoque au Seigneur. Maintenant, deuxième chose. Le pire des troubles que le chrétien peut avoir, et il faut savoir que lorsqu'il dit du fond de l'abîme, il utilise une image probablement des eaux profondes. C'est une abîme dans l'océan. En tout cas, il parle souvent comme ça dans le psaume. Et ces troubles, ces angoisses peuvent être d'ordre différent. Il peut y avoir des ennemis extérieurs qui menacent sa vie. Il peut y avoir d'autres problèmes extérieurs. Et il y a des problèmes qui viennent de lui-même. Ici, dans ce psaume, dans le contexte, il n'y a qu'un seul problème qui est évoqué. Regardez avec moi. Verset 3. « Si tu gardais... » Donc, il parle de son abîme. Et la pensée d'après... C'est au sujet de ses péchés. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si nous allons plus loin, nous voyons qu'il dit Israël, verset 7, Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc, tout au long du psaume, le psalmiste, ce croyant, est en train de penser du problème le plus profond, le plus grave et éternel que vous et moi nous puissions avoir, c'est d'avoir un problème avec Dieu lui-même. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est d'avoir un problème avec Dieu lui-même. Maintenant, on peut se demander comment est-ce que quelqu'un comme David ou d'autres des psalmistes, comment peuvent-ils se retrouver dans un abîme profond à cause de leur péché? Ce sont des croyants mûrs? Est-ce que cela n'est pas fini pour eux? Malheureusement pas. En lisant l'histoire de l'Église, en lisant des biographies de personnes importantes dans l'histoire de l'Église, on se rend compte que même ceux qui marchent bien avec le Seigneur peuvent, à un moment donné, se retrouver dans un fond d'abîme à cause de leur péché. Comment est-ce que ça se passe pour vous ou pour moi? Je suis désolé de le dire, mais il y a des chrétiens qui peuvent pas s'identifier avec ce que je suis en train de dire, parce que ils vivent, s'ils sont vraiment chrétiens, tellement loin du Seigneur tout le temps, que être loin du Seigneur, c'est un peu la seule chose qu'ils connaissent. Mais si tu marches vraiment dans une vie chrétienne normale, où tu grandis, où tu connais une communion avec Dieu, où ton cœur est parfois ravi, où tu caches littéralement le visage parfois, dans sa présence, devant sa grandeur, et sa grâce inonde ton esprit, ta pensée parfois, tu sais que quand tu t'éloignes de tout ça, et tu n'as plus rien de tout ça, tu n'as plus cette communion, tu n'as plus cette assurance du salut, et même si tu vas assez loin, même les vérités de salut, c'est des choses, oui, je connais, ça ne te touche plus. Tu les connais, tu peux même les enseigner, mais ça n'affecte plus ton être, ton cœur. Dans une telle situation, on peut même en arriver au point, et David le dit ailleurs dans les psaumes, où penser à Dieu te donne des ennuis. Même le souvenir de Dieu, tu es tellement mal en toi, parce que tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sais que tu n'es pas proche à lui. Et même devoir penser à lui, ça ne fait que revenir tout le problème qui te semble maintenant tellement grave que tu ne veux pas y penser. Comment est-ce qu'on y arrive? Parfois, c'est simplement par un processus sournois et graduel par lequel tu cèdes à la mondanité, à l'amour du monde. La Bible en parle dans les sept églises d'Apocalypse. Parfois, c'est par quelques grands péchés, comme David avec Bathsheba, n'est-ce pas, qui l'amène pendant des mois à être très loin du Seigneur. Parfois, c'est en refusant un service important que le Seigneur te demande. Tu deviens un Jonas. Et là, ça t'amène loin du Seigneur, jusqu'à ce qu'il t'a ramène. Ou bien parfois les chrétiens s'éloignent du Seigneur et se trouvent dans des abîmes spirituellement à cause de l'amertume et le manque de pardon. Quelqu'un a dit dans le carrefour théologique à la fac hier, un frère qui donnait une méditation, il parlait du fait que il y a un gros problème dans nos églises de conflits entre chrétiens dans les églises qui durent des années et qui ne sont jamais résolus. Et je vous assure que dans de tels cas, ces personnes ne peuvent pas garder une communion étroite avec le Seigneur. Et ils peuvent s'éloigner de plus en plus et un jour se réveiller pour réaliser « Je suis dans un abîme, au fond d'un abîme, loin de Dieu. » Quelle que soit la manière, je dirais juste une manière de plus, parce que nous devons faire attention, parfois c'est par une fausse croyance que tu adoptes, qui refroidit, qui glace, qui gèle ton âme. L'hypercalvinisme, ou bien le légalisme, des croyances que Dieu doit tout faire, moi je ne fais rien, aucune responsabilité humaine, ou bien je dois gagner l'amour de Dieu ou gagner sa faveur parce que je fais. Et on se coupe de la réalité du Dieu de la grâce. Quoi qu'il en soit, c'est possible que vous et moi, et même probable que parfois, vous allez devoir chanter le psaume 130. Moi, je suis convaincu. C'est pour ça que je vous l'enseigne. Je suis convaincu que c'est un psaume que vous devez connaître et utiliser souvent. Troisièmement, nous avons dit qu'il y a des eaux profondes de troubles et les eaux profondes les pires sont celles qui viennent de notre péché. Troisièmement, il faut que nous voyons que Dieu veut nous enseigner qu'il y a raison de prendre l'espoir parce qu'il y a un moyen de délivrance. Nous lisons dans le verset 3 ceci. Si, et le si est très important, il envisage quelque chose que heureusement c'est pas vrai. Je vous l'assure. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Il parle de la manière dont le Seigneur agit avec son peuple, avec les croyants, et il dit, si tu, le mot c'est un mot de comptabilité, si tu enregistrais dans ton livre et tu gardais compte de tous nos péchés sans jamais les oublier, sans jamais les enlever du registre, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et dans ce « mais », il nous montre quelque chose de très important lorsque nous sommes dans l'abîme. Te voilà dans cette situation où tu te sens tellement coupable que tu ne sais même pas si tu peux revenir au Seigneur. Mais j'ai vécu tellement longtemps loin de lui. J'ai agi carrément comme un non-croyant pendant des semaines et des mois et peut-être des années. J'étais encore à l'église. Mais secrètement en moi, je ne vivais plus comme si Dieu existait même. Et la grande tentation, c'est le désespoir. Judas, pas de pardon pour moi. Et Pierre, qui renie le Seigneur, il découvre cette réalité. Donc la première chose que nous devons à tout prix faire, c'est de nous rappeler qu'il y a de l'espoir pour le pécheur que nous sommes, n'est-ce pas? Nous devons jamais, vous devez jamais céder à ce désespoir. Ce psaume est un psaume d'espoir. C'est fou. C'est assez percutant quand tu réalises qu'il dit qu'il est dans l'abîme, du fond de l'abîme. Or, tout le psaume parle de « le pardon se trouve auprès de toi, j'espère en toi ». Mon âme espère, j'attends ta promesse, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes du matin, plus que les gardes pour le matin. Et puis il exhorte carrément Israël, mets ton espoir en l'Éternel, il y a une abondante rédemption dans l'Éternel. C'est absolument étonnant, n'est-ce pas? Donc on avance au quatrième point. Comment est-ce que on peut vraiment embrasser cette espérance et cet espoir lorsqu'on se sent tellement coupable? Et le psalmiste nous donne cette moyen, cette piste. Nous embrassons l'espoir et nous commençons à sortir du fond de l'abîme de notre culpabilité quand nous fixons notre pensée sur une réalité simple. On ne doit pas aller plus loin que ça. C'est que Dieu est disposé à pardonner. Dieu est clément. Regardez comment il le dit. Il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, verset 3, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Retenez bien cette phrase. La pensée qui le sort, qui l'élève, qui commence à lui donner carrément la solution et la délivrance de tous ces mois, toutes ces semaines de culpabilité et de péché, qui l'amène vers une purification et un nouveau commencement, c'est quoi? C'est une vérité tellement simple. Le pardon se trouve auprès de toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire tout simplement que quand on vient à toi, on trouve quelqu'un de pardonnant. Le pardon se trouve auprès de toi. Le psalmiste veut que nous apprenions que nous devons saisir le fait, l'as-tu saisi, le saisis-tu tous les jours, que par sa nature même, la nature, l'essence même de la divinité de Dieu, c'est qu'il est pardonnant. Je voudrais vous montrer quelques versets, un ou deux versets à ce sujet. D'abord, dans Michée chapitre 7, je vais juste vous lire quelques paroles de Michée. Il dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Vous voyez, qui oublie les péchés? On parle du registre. Pas le Dieu qui se souvient, le Dieu qui met en oubli les péchés, ça c'est formidable. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à pardonner. Quelqu'un a dit que le propre de l'homme c'est de pécher, mais le métier de Dieu c'est de pardonner. Ce n'est pas tout à fait cela. Mais il y a cette réalité que Dieu non seulement pardonne, comme s'il était obligé, c'est son métier, il est obligé, mais il pardonne parce que c'est ce qu'il aime faire. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et donc nous devons saisir cette réalité. Vous savez que aussi dans le prophète Ésaïe, nous avons des promesses comme celle-ci que je trouve dans le chapitre 1 et le verset 17 ou 18, je crois, où il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, foncez. » Ça, c'est le fond de l'abîme, n'est-ce pas? C'est lorsque je n'ai pas tout simplement des péchés ordinaires, mais les péchés vraiment graves. Beaucoup. Si on devait représenter ma vie récente par une couleur, il faudrait une couleur très foncée. Difficile à enlever, cette couleur. Et il dit ceci. Il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, pourtant ils deviendront blancs comme la neige. » En raison de qui Dieu est dans son pardon merveilleux, qu'il aime pardonner en abondance. Est-ce votre Dieu? Il dit dans ce psaume que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est bizarre. Ça vous étonne pas? J'aurais compris facilement s'il avait dit « La sainteté se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Oui. Oui. Il y a plus d'une possibilité pour comprendre cette phrase, mais je crois que probablement la plus logique, c'est ceci. Dans l'Ancien Testament, craindre Dieu, c'est avoir une relation avec lui, c'est le révérencer, c'est le suivre, c'est lui obéir, c'est ne pas le fuir et ne pas fuir sa réalité jusqu'au point où tu ne le crains plus parce que tu as caché même la réalité de Dieu de ta face. Ok? Donc, craindre Dieu, c'est pouvoir le regarder, le révérencer, être en face de lui et ne pas fuir. Ok? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Parce que s'il n'y avait pas de pardon en Dieu, on fuirait tous. Tout de suite, n'est-ce pas? Il serait impossible pour nous de craindre Dieu, de suivre un Dieu si saint, s'il n'y avait pas de pardon. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on puisse te craindre et ne pas être complètement désintégré par ta sainteté. Bon, je vais sauter certaines choses. Je veux que vous saisissiez l'essentiel, que quand vous êtes dans cet abîme, que la première chose, c'est pas de ne vous occupez pas d'autre chose pour le moment, mais fixez votre pensée sur cette réalité. Il y a un Dieu pardonnant qui aime pardonner. Et nous avons l'avantage sur le psalmiste parce que nous regardons à la croix. Et nous voyons que Dieu a montré dans l'histoire, dans les souffrances palpables du Fils de Dieu, combien il tient à pardonner, combien il aime pardonner, combien abondant est son pardon et sa clémence. Aucun doute! Quand Dieu devient homme pour se suspendre sur une croix, pour la seule raison de vouloir pardonner des millions d'hommes et de femmes de toutes les nations, de tous leurs péchés pour tout le temps. Vous savez qu'en lui-même est le pardon. Donc, on doit attraper cette réalité. Dieu est comme ça. Maintenant, ayant pris l'espoir, hein, tu as pris l'espoir, ok? Du fond de ton abîme, ça t'a donné le courage maintenant de faire quoi? Quand tu sais que Dieu est, de faire face à tes péchés. De passer aux aveux. Regardez bien. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire face à la gravité du péché et de ses péchés. Seigneur, si tu comptes, si tu enregistres ce que j'ai fait, c'est impossible. Je périrai. C'est très honnête. Il fait la comptabilité lui-même devant Dieu. Il passe aux aveux. Et donc, il n'y a pas de pardon sans aveu. Vous avez fait un tort à quelqu'un. Et c'est un tort grave. Vous voulez être pardonné. Mais si vous allez dire à la personne, non, c'est pas vraiment, je n'ai pas vraiment fait ça, ou j'ai une excuse, ou c'est pas aussi grave que ça, vous pensez que c'est comme ça que vous allez motiver la personne à vous pardonner? Bien sûr que non. Dans les relations humaines, nous recevons le pardon lorsque nous passons aux aveux francs, et sans justification. J'avais vraiment tort de te parler comme ça. Merci de l'avoir dit. Je te pardonne. Et avec Dieu, c'est comme ça. Quand vous avez l'espérance dans sa clémence, vous pouvez, n'est-ce pas, être comme le psalmiste et passer aux aveux. OK? Et racontez au Seigneur tout ce que vous avez fait. Soyez comme le publicain qui se frappe la poitrine et qui dit, oh Dieu, c'est moi le pécheur. Ça, c'est la voie réelle d'être pardonné et d'en recevoir même l'assurance palpable tout de suite. Ensuite, et j'arrive à la fin, ayant passé aux aveux, il faut maintenant regarder vers Dieu pour le pardon. Regarder vers Dieu pour le pardon. Nous remarquons comment le psalmiste nous conduit dans cela. Il dit ceci au verset 6. Et vous devez vous demander, est-ce que je fais ça par rapport à Dieu et son pardon? Il dit, verset 5, pardon. J'espère en l'Éternel pour le pardon, hein. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends quoi? Sa promesse. La promesse du pardon de Dieu. C'est Dieu le premier qui a dit, je veux vous pardonner. Quand vous péchez, si vous confessez, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner, n'est-ce pas? La promesse du pardon vous est donnée. Et il dit, je me compte sur sa promesse. Je me sens encore mal peut-être. J'ai pas le sentiment d'avoir été pardonné. J'ai pas l'assurance d'avoir été pardonné. Mais je demande le pardon. Je regarde vers le Seigneur pour le pardon. Je guette. Je guette. C'est ça le sens. Verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, donc pour le pardon, plus que les gardes ne comptent sur le matin, Donc, je veux vous expliquer une chose extrêmement importante dans cette recherche du pardon quand on est au fond de l'abîme. Les chrétiens, parfois font une grande erreur ici. On confesse mon péché. Et puis, ce que je cherche, ce n'est pas vraiment le pardon. C'est le sentiment d'avoir été pardonné. Quelle grave erreur! Et donc, quand je ne me sens pas peut-être pardonné, là, je tombe dans le doute, je reste dans mon sentiment de culpabilité, indignité, et je ne bouge pas. C'est une grave erreur. De notre part. Le psalmiste dit, là, il y a une différence entre le fait d'être pardonné et le fait de sentir que je suis pardonné. Ça, c'est le pardon et l'assurance du pardon. Ce que moi je veux, ce n'est pas que mes sentiments changent au début. Ça va arriver. Mais je veux que les sentiments de Dieu envers moi changent. C'est ça le pardon. C'est lorsque Dieu change dans sa manière d'être de tenir sa relation avec moi. Donc, ce que je cherche, ce n'est pas de me changer. Ce n'est pas de changer mes sentiments subjectifs. Chercher le pardon, c'est demander à Dieu de changer ses sentiments vis-à-vis de moi. OK? Et donc, je guette et je demande. Mettons-le comme ceci. Vous faites un tort envers quelqu'un d'humain, un autre humain, et qu'est-ce que vous voulez? Vous allez auprès de cette personne et vous demandez pardon. Ou bien, si la personne est loin, vous envoyez une lettre. Et qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez envoyé la lettre et vous n'allez pas vous dire, mais j'ai envoyé la lettre, ça fait 3 jours. Mais je me sens pas différent. Et pourtant, je suis passé aux aveux, wow, c'est bizarre, je me sens pas différent. Non, tu n'es pas en train de chercher d'abord un changement subjectif. Tu veux que la lettre arrive à la personne, que la personne entende ta confession et que la personne change de manière de te regarder et te réponde. D'accord? Tu veux que quelque chose se passe non pas en toi, mais que quelque chose se passe chez l'autre. Le pardon est quand quelque chose se passe chez Dieu. Bien sûr, à un moment donné, quand on confesse, quand on demande pardon à Dieu, quand on compte sur lui, compte sur lui, compte sur lui, demande au Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi, et quand on attend sa promesse, quand on attrape sa promesse de pardon à un moment donné, on va en avoir l'assurance. On va réaliser. Dieu lui-même va nous donner cette assurance que là, je te pardonne. D'accord? Mais ne cherchez pas cela au début. Ça, c'est le piège que je veux que vous évitiez parce que nous le voyons ici. Qu'il est dans une phase où il doit attendre et compter et espérer le pardon de Dieu. Et peut-être dans son cas, c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament, on voit que il est sous un châtiment de Dieu, il y a quelque chose, une maladie ou l'Assyrie, un ennemi qui est l'outil de Dieu pour le châtier pour ses péchés, le peuple. Et le peuple saura qu'il est pardonné lorsque Dieu fait en sorte que l'ennemi donc est vaincu, etc. Et donc il attend ce signe ou cette réalité visible qui montre que Dieu a pardonné la faute de son peuple. Donc il y a cette possibilité aussi. D'accord? Ok. Quoi qu'il en soit, donc nous voulons tenir la promesse de Dieu et jusqu'à ce que nous soyons sûrs en nous-mêmes que nous avons reçu son pardon. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est dans le dernier verset du psaume qui peut nous étonner peut-être un peu. Maintenant, le psalmiste tourne vers Israël. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans les psaumes, on voit souvent que à la fin, le psalmiste parle, comment dire, de la fin du temps, de la finalité du salut. Par exemple, si vous regardez le psaume 23, ce fameux psaume, nous avons un exemple à la fin, il parle de sa vie, il passe à travers telle et telle situation en tant que croyant sur la terre, mais à la fin il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le psalmiste veut nous montrer que vraiment ce que nous cherchons, même dans le pardon, c'est pas juste le pardon de ce moment. C'est pas juste ma vie chrétienne qui est la finalité. Ce que nous voulons vraiment, en fin de compte, c'est le salut final. Et parfait. Nous voulons le jour où le pardon sera une réalité définitive, permanente, et on va jamais se retrouver au fond des abîmes encore. Il dit, Israël, il est en train de parler des promesses de la fin des temps. Israël, Dieu va vous racheter un jour de toutes vos iniquités. Il y a un jour qui vient, qui sera différent, où Dieu va vous montrer qu'est-ce qu'il peut faire en matière de pardon. Et quand le Christ va revenir, nous n'aurons jamais plus cette expérience d'une justification qui est complète, mais qui n'est pas complètement vécue ou expérimentée. Vous savez que vous êtes complètement justifié si vous êtes chrétien. Vous êtes déclaré juste. Mais la justification n'est pas complète dans un sens. Et en Galates 5, la Bible dit que par l'Esprit, nous attendons la justice ou la justification. C'est-à-dire la pleine expérience de ce que c'est pour moi et toi d'être complètement compté juste devant Dieu et pardonné. On ne l'a jamais vécu. Nous avons nos hauts et nos bas et nous vivons le pardon de manière partielle, n'est-ce pas? Nous retombons dans le péché, nous nous sentons coupables, un jour viendra, cher croyant, et tu vas jamais plus te sentir coupable, pour quoi que ce soit. Et c'est un peu dans ce sens qu'il dit à la fin, attends, Israël, le jour viendra où Dieu va vous racheter de toutes vos iniquités. Et cette expérience de pardon, maintenant, du fond de votre abîme, c'est juste l'avant-goût. Ne le prends pas pour le salut complet. Un salut, sa qualité dépend de là où il t'amène au bout. N'est-ce pas? L'aboutissement final d'un salut détermine sa qualité. Et le psalmiste veut toujours nous amener à cet aboutissement final et nous dire, pardon, pardon, tu as besoin de pardon, je te montre comment le recevoir maintenant, quand tu es au fond d'abîme, mais attention, il y a un pardon qui vient, qui sera infini, permanent, définitif, irrévocable, et c'est ça que nous attendons. Et ça, c'est ça que nous goûtons un peu maintenant, que le Seigneur nous aide à le faire. Nous allons chanter ce psaume maintenant. Au fort de ma détresse, dans mes profonds ennuis, le numéro 33.
Que ma voix te réveille, il en est temps, Seigneur. Si ta rigueur extrême nos péchés veut compter, ô majesté suprême, qui pourra subsister? Mais ta juste colère fait place à ta bonté, afin qu'on te révère avec humilité. En Dieu, je me console dans mes plus grands malheurs, et sa ferme parole apaise mes pleurs. Mon cœur vers lui regarde, et plein d'un saint amour, l'attend comme la garde, attend l'aube du jour. Qu'Israël sur Dieu fonde, en tout temps son appui. En lui la grâce abonde, le secours vient de lui. De toutes nos offenses, il nous rachètera. De toutes nos souffrances, il nous délivrera.
Je vous invite à la prière. Sentez-vous libre de prier.
Oui, merci Seigneur, parce que nous savons que le pardon est auprès de toi avec abondance et que tu aimes pardonner. Et nous croyons que tu aimes pardonner parce que tu l'as montré vraiment en Christ, car tu as tout fait pour que nous soyons pardonnés. Et Seigneur, tu aimes pardonner aussi parce que, en tant que croyants, nous qui avons mis notre espérance en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une attitude de haine contre le péché. Mais Seigneur, c'est facile à dire, et quelquefois nous reconnaissons que l'hypocrisie survient en nous, mais toi tu es capable de voir notre cœur hypocrite, Seigneur, et combien de fois, bien que nous disons que nous détestons le péché, nous sommes quelquefois dans des situations où nous sommes aveuglés par l'excitation de la tentation et un voile tombe devant nos yeux et nous tombons dans le péché et nous n'avons un esprit de repentance qu'après être tombés et nous avons un dégoût. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous donnes un esprit de repentance avant de pécher et avant de tomber et que nous soyons protégés de la tentation et du péché. Et de la prière que tu nous as enseignée, ne nous emmène pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est notre prière encore ce matin, Seigneur. Rends notre cœur droit, délivre-nous de toute hypocrisie, de nous complaire d'un côté dans le péché et de nous satisfaire parce que nous avons un sentiment de repentance après avoir péché. Seigneur, corrige nos cœurs et nous savons que tu le feras parce que vraiment, nous voulons être purs, nous voulons te plaire, nous voulons vraiment de tout cœur vivre une vie qui te satisfasse et marcher dans tes voies et non dans les nôtres qui sont des voies de cul-de-sac et de perdition. Seigneur, aide-nous ce matin, aide-nous dans notre vie de tous les jours à lutter, à résister au mal et à de toutes nos forces. Donne-nous des motivations puissantes. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à écraser le mal sous nos pieds. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ce message, pour ce fait que tu es un Dieu qui pardonne. Oh, Seigneur, aide-nous à ne pas vivre avec les yeux fixés sur nous-mêmes, à nos vices, à nos savoir-faire, à comment avancer, mais de penser plus et de se rappeler plus vite que oui, tu es un Dieu qui pardonne. En cela, nous avons toute ta grâce et une paix que le monde ne connaît pas. Merci, Seigneur.
Amen.
Amen. Seigneur, merci parce que même quand nous avons péché, que nous sommes dégoûtés de nous-mêmes, tu te tiens toujours là. Merci Seigneur de nous le rappeler encore ce matin. Tu es toujours prêt à nous pardonner et ce, quel que soit ce que nous ayons fait. Merci Seigneur de continuer à veiller sur nous-mêmes dans nos moments les plus terribles.
Oui, amen. Seigneur, nous te louons que tu es si exalté en miséricorde. Ta grâce est plus grande que nos péchés et nous te confessons, nous te demandons pardon de ce que parfois nous avons exalté notre capacité de pécher au-dessus de ta capacité de pardonner. Et nous avons fait de nous-mêmes un Dieu au-dessus de toi. Mais ô Dieu, ta grâce abonde là où le péché abonde, ta grâce surabonde, car tu es Dieu et personne n'est comme toi. Nous te donnons gloire et honneur et nous t'aimons pour ta clémence. Nous t'aimons de tout cœur. Nous avons besoin de cette clémence et cette miséricorde. C'est de toi que nous avons besoin, ô Dieu de salut. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner le restant de cette journée. Et surtout, Seigneur, que le psaume sans toi et ce que tu nous dis par lui s'intègre vraiment dans notre vie et que nous vivions et te glorifions de ton pardon tous les jours. Amen.